France Culture, le dimanche, 23h, une porte s'ouvre sur l'imaginaire.
Création, on air. Creation on air.
Longtemps après sa découverte au XIXe siècle, l'homme de Néandertal a été considéré comme un lointain cousin bas du front, une brute trapue éliminée par les sapiens. Mais de récentes découvertes nous apprennent que nous sommes porteurs d'un pourcentage de son ADN qui non seulement renforce notre immunité, mais nous lègue une certaine perception du monde. Dans la peau de Néandertal, une expérience sonore proposée par Franck Bessière et Nathalie Battus.
Là, on est à mi-hauteur du massif. Il y a une cassure géologique juste derrière nous. On suppose qu'ils sont venus s'installer là, vraiment pour la taille du silex. Le site se trouve dans le Var, à la limite du 04. Et on est sur la commune du Bourguet, une petite commune située dans le Haut-Verdon. C'est pas des grosses carrières. Le silex est en abondance. Tout est à ramassable très facilement. Et en plus, là, on sait maintenant que la chasse était vraiment... Ils suivaient les troupeaux. Les troupeaux remontaient des zones plus chaudes méditerranéennes pour remonter dans les vallées alpine, comme le ferait aujourd'hui un troupeau de moutons. On est orienté sud-ouest. La configuration, elle est que même s'il fait froid, tu es bien, quoi. Il suffit de faire un petit abri. En été, tu es super bien, même s'il y a des températures. Peut-être même négative la nuit, on ne sait pas. Et tu vas avoir forcément un ensoleillement intéressant. Quand tu es en amont, dans une vallée, tu as tous les bruits qui montent. Donc on entend arriver les prédateurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là se faisaient attaquer par des animaux. Et donc, du coup, il fallait qu'ils se protègent. Et souvent, c'est pour ça qu'ils s'adossaient ou à une colline, ou ils se mettaient à découvert sur un sommet ouvert. Pour pouvoir voir arriver l'animal qui allait l'attaquer.
Création en air. Sapiens, recherche Néandertal, par Franck Bessière et Nathalie Battus.
On a entre 2 et 4% de gènes néandertaliens. Ces gènes concernent surtout la peau, les cheveux, le métabolisme des graisses. Si nous, Européens, nous avons moins de maladies auto-immunes, c'est grâce à ce métissage avec Néandertal. Après, c'est tout ce que nous pouvons dire de ce passé néandertalien, parce que les Néandertaliens ont disparu il y a au moins 38 000 ans, voire 40 000 ans. Il s'est passé beaucoup de choses. Et surtout, l'histoire qu'il y a eu après les Néandertaliens, c'est encore une histoire de cueilleurs-chasseurs. Mais 20 000 ans après, on aura les premières populations qui seront des populations d'éleveurs et d'agriculteurs. Et le monde va complètement changer. Au moment où Néandertal évolue en Europe, eh bien Sapiens évolue en Afrique. Et on pense que les deux populations, Néandertal et Sapiens, évoluent à partir d'un ancêtre commun que nous, aujourd'hui, on identifie dans un fossile qui a un nom un peu barbare, qui s'appelle Homo heidelbergensis. Simplement parce qu'il a été trouvé dans la ville de Heidelberg en 1907 et donc on lui a donné ce nom. Et donc, Néandertal et Sapiens, ce sont ce qu'on appelle en anthropologie deux groupes frères. C'est-à-dire issus d'une souche commune qui est Homo heidelbergensis.
J'ai changé ma vision sur l'humanité. Ce n'est pas tant la proximité de ce site avec les adeptes de la secte du Mandarum qui me plonge dans une réflexion existentielle, mais plutôt un magnifique silex taillé par la main d'un autre homme, d'il y a plus de 40 000 ans. Pourquoi ce silex est-il si particulier? Ce petit morceau de pierre taillé me plonge au cœur de cette époque où plusieurs espèces d'hommes cohabitaient. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui différencie l'homme de Néandertal avec Sapiens? Il est européen, a disparu il y a 40 000 ans, juste après que nous, Sapiens venus d'Afrique, soyons arrivés. Nous nous sommes rencontrés, nous avons échangé, nous nous sommes même certainement aimés, puisqu'il a légué un petit patrimoine génétique à tous les Eurasiens d'aujourd'hui. Ce silex taillé me permet de rencontrer l'homme de Néandertal, une connexion avec un autre monde, une autre humanité.
La terre est un marron foncé, très typique de ces époques-là, c'est-à-dire très riche. Il y a eu dû avoir une végétation abondante après les périodes glaciaires, donc qui ont enrichi les terres. Ça s'étend sur une vingtaine de mètres en visuel. Là, plein de petits bouts de silex. Un petit éclat encore. Toujours la même taille, presque la même matière. Ça pourrait aller ensemble en remontage. Et là, en flanc, là, l'érosion là, a mis à jour un petit éclat qui a été taillé avec une matière de silex qui est locale. On voit très bien. Il y a un petit bout de cortex, donc là c'est un enlèvement de bord de silex. Quoi. Mais qui devait servir quand même, parce qu'il a un petit tranchant. En avançant, peut-être que je vais trouver un nucléus ou autre chose. Là on voit très bien que ça a été abîmé par l'homme, donc du coup on a bien une coupe franche du talus. Un éclat. Là, typique. Un éclat qui a été préparé. Donc le silex a été taillé par petit à coup. Super beau. Et ça, c'est des déchets. Donc c'est vraiment un endroit où c'est qu'ils taillaient et qu'ils emportaient ce qu'ils avaient besoin.
Voilà, il y a un autre petit silex que j'ai trouvé, qui a été taillé, mais que...
Il a cassé.
Alors,
où c'est un accident ?
Quand il a cassé, c'était soit un accident au moment de taille, mais moi je dirais qu'il a cassé au moment d'utilisation.
Oui, plutôt. Hein,
parce que vraiment, c'est la pointe qui manque. Très, très beau. Hein. Ouais, vraiment ça, très, très beau. Et puis à côté, on a un petit racloir qui est absolument impeccable.
Une très très belle
matière. Je sais pas qu'est-ce que c'est exactement. C'est en plus comme ça bicolore, absolument magnifique. On dirait qu'il a été presque choisi pour ses qualités, je dirais presque esthétiques. Magnifique. C'est pas surprenant qu'il y ait eu des Néandertaliens ici. Hein. On connaît dans tout le pourtour méditerranéen. Donc, il n'y a rien de, je dirais, d'étrange, le fait qu'ils soient venus ici, d'accord ? Surtout qu'on ne parle pas d'une époque d'occupation qui date de quelques années, mais on parle de milliers d'années hein, dans lesquelles ils ont vécu ici. Que ce soit un endroit où les Néandertaliens ont vécu, ça ne me paraît pas du tout étonnant. Au contraire, ce serait étonnant qu'il y ait une poche dans cet endroit du Var qui n'ait pas été occupé par les Néandertaliens alors qu'ils étaient partout autour. Il faut également se mettre à la place des Néandertaliens. Ils ont vécu dans un environnement qu'ils connaissaient très très bien. Pendant des milliers d'années, c'est un énorme succès. Les Néandertaliens ne sont pas arrivés et disparus à l'imprévu. Ils ont vécu sur 300 000 ans. Donc quand on vit autant de temps dans un environnement, on le connaît. On le connaît très très bien. On est capable de l'exploiter.
il est taillé, il a une patine, il est fortement, dans notre jargon, en archéologie, on dit qu'il est éolisé, il a subi probablement le passage du vent.
C'est un bel objet, enfin non, c'est un objet qui est dans un superbe silex.
Et c'est probablement un petit racloir. Ici, je peux repérer le bulbe de percussion et la partie qui a été retravaillée.
Qui est légèrement émoussée.
C'est une très jolie pièce.
Est-ce que ça a été roulé par l'eau ? Je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, c'est un éclat. C'est un éclat parce que j'y vois le reste du plan de frappe. Et puis, en connexion avec ce plan de frappe, un petit... une petite zone, d'ailleurs... petit point d'impact, ou même peut-être une petite lèvre, un petit rebroussement autour de cet endroit-là. Et puis une face qui, pour moi, est la face d'éclatement, avec une juste en connexion avec le point d'impact, une zone plus arrondie qu'on appelle le bulbe. Si on est sophistiqué, ou autrefois il disait le conchoïde, en forme de coquille.
Cet outil qu'on nomme racloir servait probablement au travail déjà de la peau. C'est un outil qui va être parfois emmanché, pas toujours, mais en tout cas la partie active ici qui a été retravaillée, on voit tous les négatifs d'enlèvement.
Alors, si on en trouve un, éventuellement deux, on peut se dire ouais c'est le hasard. Bon, à partir de trois dans un même endroit, on peut penser qu'il y a derrière une intention.
Peut-être que ça a pu servir aussi à racler la viande sur les os. Ça a pu servir aussi à travailler le bois.
Je vois au moins trois négatifs. Là, c'est pas la nature qui a fait ça. Faire trois chocs comme ça dans la même direction et un quatrième qui a détaché cet éclat là que je vois. Il y a une intention derrière. Donc attention, c'est très probablement l'homme. On n'en connaît pas d'autre.
C'est difficile de dire, rien qu'à l'œil comme ça, qu'est-ce que l'outil a travaillé. Et sa forme ne nous dit pas non plus directement à quoi il servait, ou en tout cas sur quel matériau il a pu être utilisé.
Alors, j'ai du mal à imaginer. Bon, ils sont dans une grotte, allez, ils sont dans une grotte, ils se réveillent avec le jour, sans doute.
J'imagine un lever très matinal au premier chant des oiseaux, dans un couvert forestier. Et puis l'éveil des autres membres du groupe à côté. Ça remue un peu dans la grotte. Il fait un peu frais, donc on va un peu peut-être réattiser le feu. Parce que Néandertal maîtrise le feu, il sait parfaitement le produire chaque fois qu'il en a besoin. Et puis petit à petit, on est moins engourdi par le froid. Et je crois quand même qu'une des premières préoccupations de la journée, c'est de s'assurer qu'on va avoir de quoi manger.
En général, bon, ils sont installés pas très loin d'une source d'eau. Et je pense qu'ils vont d'abord aller boire. C'est ce que je ferai, moi, en me levant. Aller boire, bon, ensuite, manger, ça sera sans doute la seconde préoccupation. Les mamans vont sans doute s'occuper des bébés. surtout les tout petits qu'elles allaient encore. Ensuite, ils se débrouillent très vite, les Néandertaliens. Je crois que ils sont beaucoup plus indépendants, plus vite indépendants de leur maman que les sapiens. Ensuite, séparation des tâches pour la chasse. C'est possible, mais... Les mamans qui sont enceintes, elles vont sans doute plutôt aller faire de la cueillette, c'est vrai. Elles seront moins agiles pour aller chasser. Les hommes, bon, vont s'organiser, éventuellement s'organiser en groupe. Peut-être aller chasser du petit gibier. Chasser sans doute pas que du gros gibier. Il y avait du gibier bon moyen, un bouquetin, un mouflon, je trouve un petit peu moins gros, un chevreuil, en fonction des climats, des environnements.
Alors c'est un petit peu moins, c'est un peu plus pragmatique que la vision d'un éveil comme ça dans un couvert forestier et un peu frais. Mais après tout, rien ne nous dit que Néandertal ne l'abordait pas avec le plaisir d'être dehors dans la nature, le bruissement des feuilles, le bruit de la rivière. Et puis je pense qu'ensuite le groupe, une partie du groupe va se mettre en route, s'assurer que les épieux sont affûtés, que le nécessaire à couper est prêt aussi. Et puis c'est la quête ensuite. J'imagine un peu plus tard dans la journée, parce que la chasse, elle n'est pas toujours à la hauteur des espoirs au moment du départ. Mais après la chasse, j'imagine un retour assez rapide, assez guilleré. Il faut traiter la viande, il faut traiter la peau, il faut se répartir les tâches de ce qu'il y a à faire. Et puis après, il faut manger.
Voilà, et puis la journée passe comme ça, à manger et à boire ce qu'on trouve. Et puis le soir, peut-être autour du feu, au moins pour chasser les animaux sauvages ou indésirables. Les moustiques, entre autres, au bord d'une rivière, c'est tellement fréquent. Et ça peut bien donner des maladies. Et puis vite, ils vont se coucher et puis dormir.
On ne vit pas très très vieux à l'époque de Néandertal, donc l'apprentissage, il devait se faire assez rapidement. Et d'autant plus que, ne serait-ce que pour la taille, mais je pense que c'est aussi vrai pour identifier les traces des animaux, être capable de prévoir le temps, repérer les changements de saison et les moments où il faut à nouveau se mettre en route. Donc il y a quand même beaucoup de choses à transmettre. Donc j'imagine une vie un peu... de labeur, au sens où il faut se mettre en quête surtout de la nourriture, de la matière première aussi pour l'outillage, mais aussi j'imagine quand même un grand temps à la vie ensemble dans le groupe pour la transmission, parce que ce sont des humains, ils n'ont pas forcément la même tête que nous, mais ce sont des humains.
Thank you.
Théoriquement, l'animal le plus facile, ça va être le cheval. Parce qu'il ne faut pas penser qu'il allait tuer des trop grosses pièces. Parce que si vous avez un mammouth laineux, vous n'allez pas le chasser. Déjà, ça va être dur pour le tuer. Et pour le débiter, ça va être une très grosse galère. Donc, il chassait déjà des petits lapins, des trucs très petits. Et après, du gibier qu'il pouvait emporter, qu'il pouvait dépecer sur place. Souvent, il préférait un petit faon à un grand cerf, quoi. Et donc, théoriquement, quand on va retrouver sur ces sites, si par bonheur il y a encore des os, on va s'apercevoir que ça va être un animal qui est proche d'eux et qui est pas agressif et qui est facile à prédater, quoi.
les Néandertaliens devaient avoir des dépenses énergétiques extrêmement importantes, c'est-à-dire au moins le double par rapport à celles que nous avons, nous, Homo sapiens, aujourd'hui. Un Néandertalien moyen avait besoin de 4000 kilocalories par jour. C'est énorme, c'est ce qu'on voit pour des sportifs de très très haut niveau. On sait que quand on mange par exemple un steak, 200 grammes, nous ne digérons pas la totalité de ce steak. C'est-à-dire que quand sur 100 grammes, on récupère à peu près 40% de protéines. Alors, est-ce que les Néandertaliens avaient exactement notre métabolisme? Ou est-ce que, par exemple, ils avaient la possibilité, par leur foie, par leurs reins, par la façon dont ils étaient bâtis, de pouvoir avoir digéré beaucoup plus de protéines dans 100 grammes de steak? Et ça expliquerait également une partie de leur anatomie. Il y a une hypothèse qui a été faite dans laquelle on pense que ce corps extrêmement bien bâti des Néandertaliens, avec des bassins extrêmement larges, une cage thoracique en cloche, était due au fait que ça protégeait un foie extrêmement gros et des reins qui marchaient beaucoup mieux que les nôtres pour pouvoir évacuer la quantité de déchets provoqués par le métabolisme de cette viande, de ces protéines.
Oh, oh.
Néandertal était très très bien adapté à son milieu. Il a vécu pendant 300 000 ans, il a vécu sans partage avec d'autres, il n'y avait personne d'autre en Europe. Au moment où il est le plus épanoui, c'est pendant un interglaciaire qu'on appelle le 5, hein. C'est un peu technique, mais ça dure, disons, de 125 000 ans à grosso modo 90 000 ans, un peu moins. Et c'est un moment de grand épanouissement pour les Néandertaliens. Et ils sortent de leur berceau européen. Ils vont à la conquête d'une partie de l'Asie. Ils arrivent jusqu'en Sibérie. Ils envahissent le Proche-Orient. Donc c'est une population qui, moi, me paraît extrêmement bien adaptée. Ils arrivaient à surmonter des crises environnementales importantes. Ils étaient sans doute différents de Sapiens, c'était un autre monde, une autre humanité.
Probablement que c'est les petits groupes, pas très nombreux. Moi, quand j'étais enfant, je lisais pile Gadget et j'ai beaucoup lu Rahan. Je me suis beaucoup identifiée à Rahan, même si j'étais une fille. Et les populations préhistoriques, notamment les Néandertaliens, se levaient pas le matin avec un coutelas en ivoire qu'on tournait sur une pierre pour choisir une direction. La mobilité et le nomadisme des populations préhistoriques, il est construit, il est réfléchi, il est basé sur la maîtrise et la connaissance d'un territoire. Et leurs déplacements réguliers leur permettent de s'approvisionner une fois en matière première à proximité d'un site connu, d'un gîte par exemple de silex. Leur nomadisme aussi s'organise en fonction des besoins alimentaires, de suivre les migrations saisonnières des troupeaux. Et évidemment, sur ces territoires parcourus, ces territoires paléolithiques parcourus, il y a des haltes. Et parfois, des sites sont occupés régulièrement, alors ponctuellement, mais sur des longues périodes. Ce qui veut dire qu'ils reviennent. Et donc, on a l'idée de groupes comme ça qui se déplacent, des petits groupes humains, quelques individus, suffisamment nombreux pour pouvoir s'approvisionner en nourriture, suffisamment nombreux aussi pour s'il y a des scissions dans le groupe ou des séparations.
Les Néandertaliens sont différents, c'est pas simplement le fait qu'on les représente dans les musées sans cravate, sans chapeau, sans nos vêtements actuels. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des proportions corporelles qui sont différentes par rapport à celles de sapiens. Les sapiens sont bâtis d'une façon longiligne, en hauteur. Les Néandertaliens, ils ont vraiment des épaules très très larges et tous les os sont, la clavicule, l'omoplate sont vraiment extrêmement importantes. En plus, la cage thoracique d'un sapiens, elle est quasiment parallèle. Chez les Néandertaliens, elle est en forme de cloche. Donc tout ça donne une impression de trapu. Moi je pense que ce qui est plus spectaculaire pour les Néandertaliens, c'est quand même leur visage, leur tête. Les sapiens, encore une fois, ils ont une tête qui est construite en hauteur. Les Néandertaliens, ils ont une tête qui est construite en longueur.
Deux bourrelets au-dessus des yeux, plus ou moins prononcés, un front fuyant et un peu étiré vers l'arrière. À la base du visage, un menton également fuyant, c'est-à-dire qu'il n'est pas proéminent, comme sur le crâne des sapiens. Et puis surtout à l'arrière du crâne, une bosse, à la base du crâne, une bosse qu'on appelle le chignon occipital, hein, de l'endroit où ça se situe. Mais en gros, au niveau du crâne, un certain nombre de caractères qui font qu'il est peut-être... ou en tout cas, on l'a longtemps caricaturé, représenté de manière un petit peu plus rustre. Ça lui donne, dans les représentations du 19e, un air un peu abêti, un front bas. Et avec un cerveau de néandertalien, même si on sait que les zones cérébrales ne sont pas tout à fait les mêmes, il y a une pensée, il y a une vie de groupe, il y a une technologie à transmettre, donc des savoirs aussi à transmettre, et on sait qu'il était doté de paroles.
Néandertal avait un très gros cerveau. Plus que 1500 cm cubes, la moyenne aujourd'hui est plutôt aux alentours de 1400. Et on a des Néandertaliens qui ont des cerveaux qui vont jusqu'à 1600-1700 cm cubes. Il n'y a aucun doute que les Néandertaliens avaient un gros cerveau et avaient des capacités cognitives importantes. De toute façon, une population qui arrive à survivre sur 300 000 ans doit être extrêmement bien adapté à son environnement. C'est pas possible, sinon.
Ce qu'on connaît de leur cerveau, enfin du moins des empreintes de leur cerveau dans l'endocrâne, montre qu'ils avaient la capacité de parler. Alors peut-être pas de manière aussi nuancée et subtile que nous, mais ils communiquaient, hein. Tous les animaux communiquent. Ils devaient certainement raconter ce qu'ils avaient vécu dans la journée, si la chasse avait été ardue. Certainement le communiquer à ceux qui n'avaient pas chassé. Aucun doute sur le fait qu'ils communiquaient. Ce qu'ils racontaient, l'histoire de leur grand-père ou arrière-grand-père, on n'en a aucune idée.
En réalité, dès qu'on parle de taille, dès qu'on parle de technologie lithique, il y a une grande maîtrise déjà de comment la matière va réagir à la taille, et surtout il y a une grande expertise de la part du tailleur. Il y a des chaînes opératoires qui sont très complexes pour arriver à produire les éclats et puis les outils qui qui témoigne, si ce n'est d'esthétique, au moins de la part des tailleurs, même les plus anciens, d'une grande capacité d'abstraction.
On découvre que les Néandertaliens se paraient aussi, en particulier de plumes, d'os, en particulier d'oiseaux. Ils n'avaient pas que des préoccupations alimentaires et de survie. Il y avait aussi un intérêt pour, marquer son clan ou embellir son corps, ça on peut toujours en discuter, mais ça faisait partie aussi de leur comportement. Donc quelque chose d'un peu plus subtil que manger, boire, se reproduire, quoi.
En Espagne, on connaissait des grottes qui présentent des dessins, pas simplement des représentations d'animaux, mais surtout des représentations un peu symboliques. Vous savez, des sortes de signes qui ressemblent à des hashtags, des sortes de carrés qu'on ne comprenait pas très bien. Alors on a toujours attribué ces peintures rupestres à Homo sapiens, et c'est cette année, au mois de février 2018, une publication est parue qui montre que les datations de ces peintures rupestres sont beaucoup plus anciennes qu'on le croyait, et à une époque où il n'y a pas du tout sapiens en Europe. Alors après, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est des peintures ? Qu'est-ce que ça veut dire, ces symboles que nous ne comprenons pas ? On a pensé que les Néandertaliens n'avaient pas d'art parce qu'on n'avait jamais trouvé de peinture rupestre, mais s'ils faisaient ce genre de choses, il est fort possible qu'ils faisaient également de l'art sur de l'écorce d'arbres, qui pouvaient faire des sortes de vanneries. Donc il y a peut-être aussi des supports dans lesquels ils pouvaient s'exprimer qu'on n'a pas trouvé. Nous savons aussi quelque chose de très important pour les Néandertaliens, c'est qu'ils, au moins ceux de la dernière époque, ils enterraient leurs morts. Bien sûr, on n'a pas trouvé encore de sépulture à 200 000 ans, à 150 000 ans, mais on en a aux alentours de 50 000 ans. Donc, on pense que Néandertal avait aussi peut-être une idée, je ne sais pas si c'est de l'au-delà, de toute façon, dans certaines de ces sépultures, il y a des objets, des très beaux outils qui n'ont pas été utilisés, ils ont été taillés mais pas utilisés. On trouve des sortes de dents d'animaux, est-ce qu'on avait mis des offrandes ? On ne sait pas trop bien. Donc, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur cette vie des Néandertaliens. Mais je pense que toute société a une représentation d'elle-même, de son environnement, donc pourquoi pas pour les Néandertaliens.
La rencontre entre Sapiens et Néandertal, d'abord elle est faite probablement, au moins si c'est la première rencontre, d'appréhension et d'étonnement. Peut-être un peu comme dans Le Petit Prince, il leur aura fallu un temps pour s'apprivoiser l'un l'autre. La différence, elle n'est pas toujours le gage de rencontres immédiates. Il faut du temps. Sans parler peut-être de réactions instinctives, de peur, peut-être un peu d'agressivité, quelques grognements de part et d'autre. Peut-être qu'ils se sont interpellés aussi. Probablement qu'ils ne parlaient pas la même langue, parce que les deux utilisent un langage articulé. Donc à nouveau, encore un peu de temps pour se comprendre et pour s'apprivoiser dans ce face-à-face. Mais moi, j'imagine que c'est l'étonnement et que c'est le questionnement qui domine leur rencontre et que, très rapidement, ils ont tenté la communication. Ils ont les mêmes besoins. Où est-ce qu'on peut trouver de l'eau? Est-ce qu'il y a du silex par ici? Est-ce qu'on est en phase de migration? Les deux le savent, mais où sont les centres? Où sont les pistes? Peut-être que l'un ou l'autre arrive sur un territoire qu'il ne connaît pas. Mais je ne peux pas me résoudre à imaginer une rencontre guerrière ou violente. C'est peut-être ma part d'utopie que je projette dans les sociétés préhistoriques. Mais je ne peux pas, sans faire d'angélisme, je ne peux pas me dire que des gens qui avaient à dépasser peut-être les mêmes difficultés extérieures ne l'aient pas reconnu chez un autre, même si ce n'était pas tout à fait la même espèce.
Néandertal, c'était un homme du froid. Il était adapté à un environnement que Sapiens, qui venait du chaud d'Afrique, ne connaissait pas. Donc il est clair que dans ces 5000 ans au moins de cohabitation, eh bien, Sapiens a beaucoup appris de l'environnement dans lequel vivait Néandertal. Donc, il y a eu un métissage, une hybridation qui n'est pas simplement biologique, mais également culturelle.
Certains disent qu'il est en nous, au sens génétique. Il est pour une petite partie dans notre ADN, ou au moins pour une partie de la population planétaire. Oui, moi je crois qu'il est en nous, même s'il n'y a pas cette dimension-là. Il est en nous dans notre imaginaire, déjà. Mais surtout, il est en nous pour ce qu'il aura participé d'accumulation de connaissances pour mener jusqu'à nous. Je me fiche un peu de pouvoir le démontrer par la génétique ou pas. Il est un jalon dans la grande histoire de l'humanité. Moi, je l'imagine comme un être culturel, donc il est dans la part des savoir-faire techniques qu'il a transmis, il est peut-être dans certaines recettes de médicaments. Donc oui, il est pas loin, il est par là.
La grande question qui reste quand même pas résolue aujourd'hui, c'est la question du succès de Sapiens. Pourquoi il a ce succès? Comment il arrive à coloniser toute la planète, à occuper toutes les niches écologiques, toutes les latitudes? Il y a quelque chose chez Sapiens qui n'existait pas chez Néandertalien, et c'est sa démographie. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec Sapiens qui fait que c'est une population qui arrive à avoir une très grande démographie alors que Néandertal ne l'a jamais eu. Qu'est-ce qui serait passé si c'est à la place de Sapiens qui a envahi toute la planète, c'est Néandertal? Peut-être que notre monde serait différent, peut-être que nous n'aurions pas la même technologie. Est-ce que s'il y avait eu cette expansion démographique, c'est sûr que Néandertal aurait dû aussi devenir un éleveur et un agriculteur pour pouvoir nourrir toutes ces personnes. Oh!
Création en air, Sapiens, recherche néandertal. Avec Claude Rouvier, Sylvana Condini, Caroline Luzy et Claire Gaillard. Consultante scientifique, Sylvana Condini. Merci au musée de préhistoire des Gorges du Verdon, la mairie du Bourget, Agnès, Corinne et Jean-Paul Roux et Alain Joubert. Coordination, Chouchane Djergaillan, Irène Omalienko. Mixage, Éric Boisset. Réalisation, Nathalie Battus. Une proposition de Franck Bessière.
C'était Néandertal par Franck Bessière et Nathalie Battus. Creation on Air se réécoute et se podcast sur franceculture.fr. Dimanche prochain à 23h, Antidote à la célébrité, les artistes anonymes, Mon nom et personne par Alexandre Périgaud. Vous êtes à l'écoute de France Culture. Dans un instant, les nuits d'archives.